Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Ravi de vous retrouver pour Sporama. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire. J'ai salué Élisée Nkwatine depuis Boïkon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin.
Merci Élisée. Avec nous également le doyen Jules Valentin Ngoué qui nous rejoint aujourd'hui depuis Yaoundé au Cameroun. Non, Douala, pardon, au Cameroun. Jules, bonsoir.
Bonsoir, Yacouba. Bonsoir à tous.
Et nous retrouvons Amdine Sy à Columbus, dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir, Yacouba, et bonsoir à tous les auditeurs de la VAF.
Nous parlons ce soir des matchs allés en retard, du deuxième tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF. Nous évoquerons également la CAN 2025 et celle 2027 qui seront attribuées à partir de ce mercredi au Caire en Égypte. Nous allons aussi parler de la CAN de Maracana au Bénin. Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous commençons avec les matchs en retard du deuxième tour préliminaire aller des rencontres interclubs de la CAF en Ligue des Champions. Le tenant du titre, Al Ahly, a fait le boulot en dominant les modestes Éthiopiens de Saint-Georges 3-0. Alors Élisée, difficile quand même d'imaginer la Ligue des Champions sans le géant égyptien.
Eh bien évidemment, puisqu'il y a de cela deux ans, c'est une équipe constante sur le continent africain, le plus à la Ligue du Caire, qui a remporté plus la Ligue des Champions. Et depuis plusieurs années, eh bien, ce club tient toujours son rang. On se rappelle la saison dernière, eh bien, le club a été presque éliminé en poule par le Al Hilal du Soudan. Mais voilà, avec beaucoup d'expérience, eh bien, le géant du Caire s'est rattrapé et s'est qualifié. La suite, on le sait, bien sûr, avec ce titre remporté devant les Marocains du Wydad de Casablanca qui, justement, les avaient battus la saison écoulée pour remporter la Ligue des Champions cette année. C'est vrai que le club a été exempté du premier tour, même le second tour. Il était du côté de l'Arabie Saoudite pour jouer la Super Coupe d'Afrique, d'ailleurs perdue contre l'USM d'Alger, le club algérois qui les a battus 2-1, vous imaginez. Donc, on pensait que cet échec allait agir sur le moral des joueurs. Non, c'est bien sûr le géant du continent. Eh bien, les Égyptiens sont allés battre la modeste équipe éthiopienne chez elle, 3-0, que du bonheur, puisque c'est quand même une avance confortable en attendant le match retour prévu en fin de cette semaine.
En Coupe de la CAF, les Marocains de Fus de Rabat et les Algériens justement de l'USM Alger se sont neutralisés un but partout en match aller. Léger avantage donc pour les Marocains selon Amin Berouk.
Le Fus de Rabat laissait peut-être l'occasion de remporter la première manche face à l'USM Alger, une équipe algérienne très conservatrice qui a su frapper au moment opportun en fin de première mi-temps face à une équipe marocaine plutôt timorée pendant la première période du match. Il faut dire que le duel entre les deux stratèges, Jamel Slami d'un côté et Al-Fakhr Mchicha de l'autre, a été marqué par la prudence excessive. Ce n'est qu'en deuxième mi-temps que les Marocains se sont quelque peu libérés du corset tactique qu'ils avaient peut-être mis en place pour essayer de bousculer une équipe algérienne, la sortir de ses retranchements et la pousser surtout à commettre des erreurs. C'est ce qui est arrivé à la 84e minute et qui a permis au FUS d'égaliser in extremis. Le match retour à Oran devrait donc tenir toutes ses promesses. Et on verra dans quelle mesure les Marocains qui sont dos au mur, en ballotage défavorable, ne vont pas un peu sortir de leurs réserves et proposer un football plus offensif, plus ambitieux, histoire de malmener le tenant du titre et pourquoi pas de créer la surprise et de les laisser sur le carreau dès ce dernier tour préliminaire.
Le Maroc, dont le football survit malgré le séisme qui a frappé ce pays, le monde du sport apporte son soutien aux victimes, nous dit Amin Berouk.
Yacouba, la famille du sport au Maroc est solidaire des victimes du tremblement de terre. On peut penser à des actions concrètes. On va commencer par l'équipe nationale, avec les joueurs qui ont décidé de donner l'intégralité de leurs primes jusqu'à la fin de la CAN en faveur des sinistrés. Certains vont avoir des actions via leurs associations ou leurs fondations. Les clubs, eux, se sont, je dirais, mis en première ligne de cette solidarité avec des dons du sang. Les recettes des matchs
sur le prochain mois seront versés intégralement au fonds d'aide aux victimes. Et il y aura d'autres actions plus concrètes dans les prochaines semaines. On peut penser, bien évidemment, à tous ces mouvements de solidarité que les sportifs marocains individuellement vont essayer de faire via des associations ou via des actions caritatives. Autant dire que le pays est en train de se relever, que le pays est en train de reprendre goût à la vie, puisque le championnat a repris. Il y aura bien évidemment des rencontres de football avec peut-être des tribunes désertées, des gens qui sont encore hantés par les images de ce sinistre, mais il y aura un retour progressif à la vie avec cette journée de championnat et les prochaines qui vont permettre au Maroc de reprendre le travail, de reprendre la vie et de se tourner une page terrible de l'histoire du pays.
Alors, Jules, cette solidarité évoquée par Amine Birouk dans le monde du foot marocain est plus que nécessaire, il le disait, car il faut vivre malgré tout et donc aussi jouer au football.
Oui, surtout dans un pays où le football est roi comme le Maroc et le football est en pleine ascension. Et les joueurs marocains ont à l'heure actuelle un statut supérieur à celui qu'ils avaient avant la Coupe du Monde. Et donc, ils se sont arrimés pratiquement au sommet de la hiérarchie mondiale. Et cela doit se traduire aussi dans le comportement quotidien des joueurs et à leur faculté à se fondre avec la population, que ce soit lorsqu'il y a, disons, que le bonheur que lorsqu'il y a le malheur. Et c'est ce qui arrive là actuellement. C'est un exemple à suivre et à suivre de très près. Il faudrait que chaque fois qu'il y a des circonstances aussi dramatiques, qu'il n'y ait pas que le Maroc qui fasse ce pas-là, mais que toute l'Afrique tire dans le même sens à côté du Maroc, comme c'est le cas à l'heure actuelle. C'est à encourager.
Les pays attributaires des Cannes 2025 et 2027 seront connus à partir de ce mercredi au Caire en Égypte. Amine Birouk y sera. Il nous fait le point des candidatures en présence.
Alors tout d'abord, il y a la candidature pour la Cannes 2025 avec un grand favori, le Maroc. Les atouts du royaume chérifien ne sont pas des moindres. Outre les stades qui sont en cours de relooking ou de reconstruction et qui devraient être prêts pour l'échéance, avec l'augmentation de leur capacité, notamment à Rabat et à Tanger, qui devraient atteindre les 65 000 places assises. Le royaume chérifien dispose également d'infrastructures routières, autoroutières, hôtelières, susceptibles de satisfaire les 24 pays participants à la compétition. À côté, il y a bien sûr la candidature algérienne, même si des doutes subsistent sur le fait que les dirigeants algériens pourraient, dans les prochains jours, voire les prochaines heures, se retirer de la course, argumentant le fait peut-être qu'ils allaient destiner 100 millions de dollars, qui était l'argent alloué pour promouvoir la candidature, la restructuration du football de ce pays du Maghreb. La candidature commune entre le Bénin et le Nigeria a peut-être l'avantage d'être viable et visible avec une coopération entre deux États voisins, mais elle est déséquilibrée dans la mesure où le Bénin n'a qu'un seul stade pour l'instant homologué aux normes de la CAF. Et puis pour la Zambie, le déficit en termes d'infrastructures pourrait lui coûter l'organisation de la compétition. Concernant 2027, a priori, c'est la candidature tripartite Kenya, Tanzanie, Ouganda qui semble tenir la corde devant le Sénégal, en attendant éventuellement le retrait de la candidature égyptienne et voir dans quelle mesure, si l'Algérie venait à échouer par rapport à 2025 et se maintenait pour 2027, si l'Algérie pourrait, du fait que la CAN pourrait avoir lieu dans la même zone géographique lors de deux éditions consécutives, obtenir les suffrages des membres du comité exécutif de la CAF. A priori, la candidature du Botswana est plutôt de l'ordre du témoignage, testimonial, et ne devrait pas concurrencer celle qui semble pour 2027 tenir la corde. C'est la candidature tripartite qui a le mérite de toucher une zone du continent qui n'a jamais organisé la CAN et qui pourrait être répartie de manière plus équitable.
Alors, Amdine a écouté Amine, il semble faire de la campagne dans son intervention, mais il faut le reconnaître quand même, en termes d'infrastructure, on ne peut que s'incliner.
Oui, Amine a parfaitement résumé les choses, puisque pour 2025, c'est clair, net et précis, ça va se jouer entre le Maroc et l'Algérie, et il faut le dire, avantage aux Marocains. Puisque si vous regardez
vraiment les infrastructures qui se trouvent au Maroc, ce que le Maroc a déjà fait en termes d'organisation en accueillant d'abord la Coupe d'Afrique féminine et ensuite la Coupe du Monde des clubs. Et puis, ce n'est pas pour rien que beaucoup de nations qui n'ont pas de stade vont jouer au Maroc. Donc, sur ce plan, vraiment, le Maroc est très bien parti pour pouvoir quand même gagner cette organisation de la Coupe d'Afrique 2025. Maintenant, comme il a dit, l'Algérie a candidaté à deux reprises en 2025 et en 2027. En cas d'échec pour 2025, l'Algérie pourrait se voir attribuer l'organisation en 2027. Mais il y a un grand mais, puisqu'il y a quand même ce problème géographique. Puisque quand l'Algérie, le Maroc organise, et ensuite l'Algérie, ça vous pose des problèmes. Mais moi, je pense que les 24 membres du comité exécutif doivent quand même faire jouer leur conscience. Il faut choisir, essayer de faire le meilleur choix pour le continent et ne pas se dire si un pays mérite d'organiser 10 000 fois, ce pays doit. On doit le choisir pour organiser 10 000 fois, comme ça les autres pays vont se débrouiller. Moi, je vois les choses comme ça. Il n'y a pas de sentiment. Il faut voir les pays aptes à organiser les compétitions et les choisir. Et je pense que c'est ça qu'on doit faire. En tout cas, concernant 2025, pour moi, c'est plié à 90%, ce sera le Maroc. Maintenant, pour 2027,
on a, justement, on en reparlera à Amdine. Pour 2027, on va y revenir. Alors, et donc, soyez-en sûrs qu'un pays organise la CAN 10 000 fois. Il y a quelqu'un qui ne serait pas d'accord. C'est bien Élisée Mpatine. Alors, Élisée, pour 2025, et en plus du Maroc, il y a aussi des candidatures de l'Algérie et la candidature commune Bénin-Nigeria, mais aussi celle de la Zambie. Qu'en est-il de la candidature Bénin-Nigeria? Est-ce que vous en parlez au Bénin et quelles sont les chances de cette candidature commune?
Bon, au début, on en a trop parlé, hein, et ça a suscité beaucoup d'envie, mais par la suite, on a compris que, il y a quand même deux géants. Quand on parle de deux géants devant en matière d'infrastructure, il y a bien sûr le Maroc et l'Algérie, vous imaginez. Et il faut faire la part des choses. La Coupe d'Afrique des Nations, désormais, ça se joue avec 24 nations, vous imaginez donc. Ce n'est plus une question d'avoir deux stades ou quatre stades. Donc, vous voyez le Bénin. Aujourd'hui, il n'a qu'un seul stade, comme l'a dit Amine Birouk, puisqu'il s'agit du stade Mathieu Kérékou qui est à Cotonou. Et c'est ce seul stade qui a été homologué pour le moment. Donc, vous imaginez, le Nigeria va présenter quel type de stade? Le Nigeria seul ne peut pas présenter 6 voire 7 stades. Vous imaginez donc avantage pour le moment pour les Marocains qui ont des infrastructures et qui ont même un TGV qui relie Casablanca à Tanger. Vous imaginez donc, ce sont des choses qui font qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a une candidature commune entre un autre grand du football africain, le Nigeria, qui par le passé a déjà organisé le Coupe d'Afrique des Nations en 80 et puis en 1998, si j'ai bon, en 2000, qui a co-organisé la CAN avec le Ghana en 2000. Donc aujourd'hui, il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. Ça s'annonce très compliqué pour cette candidature commune entre le Bénin et le Nigeria.
Bien évidemment, Élisée, vous l'avez bien fait de rectifier. Alors, en 98, c'était au Burkina Faso. Alors, Jules, quel pays voyez-vous bénéficier de l'organisation de la CAN 2025? Et pour rappel, cette CAN a été retirée à la Guinée faute d'infrastructures adéquates pour accueillir l'événement.
Non, mais là, il n'y a pratiquement pas de suspense. Et je pense que pour toutes les raisons, que ce soit les infrastructures, et la maîtrise de l'organisation, le vécu sportif et les derniers résultats sportifs qu'on connaît avec ce record de participation en demi-finale de la Coupe du Monde de football, vraiment le Maroc mérite d'organiser cette CAN qu'il a organisée pour la dernière fois en 1988. Alors vous voyez, ça date quand même. Alors là, je pense qu'il n'y a pas match. Bon, mais maintenant, on a cité tous ces éléments, mais il faut aussi retenir que la CAN, ce n'est pas que des beaux stades, je ne sais pas moi, le côté technique et tout. C'est la deuxième compétition du monde en termes d'engouement dans le football après la Coupe du Monde. qui passe même avant la Coupe d'Europe des Nations, où il y a moins de chaleur humaine qu'à la CAN. La CAN est un spectacle des peuples. Alors cet aspect-là ne doit pas manquer d'influencer aussi ceux qui décident souvent de repartir, de donner, disons que, de désigner les pays qui organisent cette CAN. En Afrique du Nord, par exemple, nous avons les infrastructures, tout est beau, tout est correct, mais souvent, quand il y a des matchs qui opposent, par exemple, la Guinée au Mozambique, il n'y a presque personne au stade. Bon, alors que nous pouvons aller en Sierra Leone et avoir une ambiance de folie, comme on l'a vu en Guinée équatoriale, on l'a vu et également dans d'autres pays, en Afrique subsaharienne. Et je crois que là, la coordination doit équilibrer tout cela et qu'on fasse appel à tous ces critères pour que la CAN reste la CAN et ne soit pas qu'un simple spectacle technique. Donc, c'est juste une petite pierre dans la mare aux grenouilles.
Et soyez-en sûrs, Douanien, c'est bien dit. Pour la CAN 2027, nous avons la candidature tripartite Kenya-Tanzanie-Ouganda, celle du Sénégal, de l'Algérie et de la candidature de l'Égypte. Alors, Amdine, je reviens à vous. Amine parle d'une candidature favorite du bloc Kenya-Tanzanie-Ouganda. Est-ce que vous êtes d'avis?
Non, je n'ai pas d'avis, puisque...
Bien évidemment.
Pour cette CAN 2027, je pense que les pays du Maghreb aussi seront vraiment... ils ont de l'avantage par rapport aux autres pays, parce qu'il y a l'Égypte qui ne s'est pas encore retirée. Si l'Égypte ne se retire pas, l'Égypte part favori. Il y a l'Algérie également. Je le disais tantôt, il ne faut pas faire de l'émotion avec l'émotion. Le Sénégal, c'est comme l'a dit tantôt, Élysée, quand il parle de la candidature du Bénin et du Nigeria, le Bénin, ils ont qu'un seul stade homologué. Au Sénégal, on n'a que deux stades homologués. On a le nouveau stade Abdoulaye Wade et le stade Lajor. Comment peut-on organiser une CAN en 2027? Non, je ne pense pas que ce soit possible. Je ne pense pas. D'ailleurs, le Sénégal allait être folklore, hein. C'est à la dernière minute qu'ils ont déposé la candidature pour vous dire que ce n'est pas une candidature sérieuse. Il faut laisser les nations qui ont vraiment les infrastructures pour pouvoir organiser ces genres de compétitions qui se jouent, Amine l'a dit tout de suite, avec 24 équipes. Donc, beaucoup de pays doivent faire beaucoup d'efforts pour pouvoir être candidats avant de pouvoir organiser ces genres de compétitions. Je ne maîtrise pas trop le trio, hein, Kenya, Ouganda, Tanzanie, mais je pense que l'Algérie, s'il maintient sa candidature, et l'Égypte partiront avec la faveur des pronostics pour cette CAN 2027 aussi.
Alors, Jules, justement, pour cette CAN 2027, il y a cette candidature Kenya, Tanzanie, Ouganda qui est dite favorite hein, par bon nombre d'observateurs, du fait que l'Afrique de l'Est aussi attend cette CAN, l'organisation de cette CAN depuis très longtemps. Est-ce que vous pensez que c'est un critère qui pourrait peser dans la balance?
Si, c'est un critère important. Et aussi à côté de ce critère, il y a le fait que la Tanzanie est peut-être le pays qui monte le plus en puissance ces dernières années dans les
clubs, oui. Alors Jules, on vous a perdu, on va essayer de vous retrouver.
Des clubs africains.
Allez-y. Allez-y Jules.
Oui, donc il arrive que les Tanzaniens tutoient les plus grands à l'heure actuelle alors qu'ils viennent de très loin. Bon, alors la Tanzanie, le Kenya, un grand pays sportif, et à côté de cela, l'Ouganda, ça ferait un bon ticket pour l'organisation de la CAN et également, ce serait une occasion d'unir les gens plutôt que de les diviser. Parce que quand on oppose là, forcément le Maroc et l'Algérie, c'est qu'il y aura un gagnant et un perdant. Mais par contre, en mettant ces trois pays-là ensemble, c'est plutôt les populations qui vont bouger dans tous les sens, ne serait-ce que par la télévision. Il y aura quand même certaines symbioses et c'est bon pour l'Afrique.
Pour le choix des pays hôtes, justement, après réception de leur dossier de candidature, eh bien, les candidats vont faire un exposé de leur dossier devant le comité exécutif de la CAF qui décide par la suite. Alors, Élysée, depuis un moment, la FIFA, elle procède hein, par vote de son assemblée générale. Que pensez-vous du processus de la CAF?
Oui,
bon, on ne peut que procéder par vote, hein, quand on sait que attribuer une compétition maintenant sur le continent africain, ça devient quelque chose de très engagé.
C'est
on
très
voit même la tension
désormais
qu'il y a autour. On ne reviendra pas sur le cas Algérie et Maroc. Et concernant cette attribution, je suis désolé pour Ahmedine Sy, puisque la candidature entre le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda est bien plus solide, hein, que ce que les Sénégalais vont proposer en termes de visibilité. Nous voyons depuis un certain moment que ce que présente la Tanzanie concernant le football avec les stades qui sont complètement remplis à chaque match de championnat. Vous imaginez, le Kenya aussi depuis près de 10 ans montre combien son championnat est développé. Donc il y a aussi cet aspect là, puisque après tout il faut aussi attirer les sponsors. Donc aujourd'hui le Kenya, la Tanzanie, ces deux pays attirent énormément les sponsors et la CAF va vouloir baser sur cet aspect là. C'est vrai que la FIFA enrôle tout depuis un bon moment concernant le football africain, puisque c'est pratiquement la seule confédération à qui il manque des moyens. Donc aujourd'hui, si le Kenya ou encore la Tanzanie peuvent permettre à la Coupe d'Afrique des Nations d'avoir beaucoup d'argent dans son compte, vous imaginez. Donc malheureusement pour le Sénégal, j'allais dire.
Voilà, vous suivez Sporama sur VOA Afrique. Ce débat, il est très passionnant. C'est sûr, hein, qu'Amdine voudrait répondre à Élisée. Mais écoutez, Amdine, on aura le temps de revenir là-dessus lundi prochain après l'attribution donc de ces différentes cannes-là, pardon. Nous revenons dans quelques secondes. On connaît désormais la composition des groupes de la CAN de Maracanã 2023 qui débute demain au Bénin. Chez les seniors, le Bénin hérite donc de la poule A en compagnie du Mali, du Cameroun, du Gabon et de la Guinée-Bissau. La poule B est composée de la tenante du titre, la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Togo et du Sénégal. Et enfin, dans le groupe C, on retrouve le Burkina Faso, le Niger et deux pays invités d'honneur, le Canada et les États-Unis. Dans la catégorie des super seniors, la poule A comprend le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, le Canada et la France. Et puis, dans la poule B, on a le Mali tenant du titre, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun et le Niger. Élisée, très rapidement, peut-on en savoir davantage, hein, sur cette catégorisation des seniors et des super seniors?
Ouais, super seniors, ça commence, non. Ceux qui ont plus de 45 ans, les seniors, donc à partir de 30 ans jusqu'aux 45 ans, le Maracanã, c'est comme le football du salle, mais les règles ne sont pas les mêmes, puisque pour marquer, il faut d'abord être dans la zone des 6 mètres, ou le buteur doit être dans la zone des 6 mètres avant de mettre le ballon au fond des filets, ou le ballon avant de rentrer dans le filet doit forcément tomber dans la zone des 6 mètres avant d'aller au fond. Donc c'est un peu ça, et ça a commencé du côté de la Côte d'Ivoire avant que d'autres pays ne faisaient ça la chose. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, ajoutons aussi le Burkina Faso, sont de véritables pratiquants de cette discipline.
Alors je reste avec vous, la cérémonie d'ouverture prévue ce lundi est finalement décalée à demain mardi, pourquoi?
Oui, parce que le président de la FIMA, la Fédération internationale de Maracanã, est venu très tôt ce matin à Cotonou. Donc, il devrait animer des réunions et aussi rencontrer le ministre des Sports béninois qui, depuis près d'un mois, est la traction au Bénin ici, puisque déjà, après l'organisation de la Coupe du monde de pétanque, eh bien, il a échangé avec le patron de Maracanã qui, par la suite, doit prendre la route pour rejoindre Grand Popo, puisque la compétition n'aura pas lieu à Cotonou. Mais plutôt à Grand Popo, dans la cité balnéaire de Grand Popo, à quelques kilomètres de la frontière Bénin-Togo.
Alors, Jules, on le sait, le Maracanã est très populaire, surtout en Afrique de l'Ouest, où certains clubs y puisent même des joueurs. Comment contribuer à rendre ce sport-là beaucoup plus populaire, surtout en termes d'organisation au niveau continental?
Bon, ça, il faut beaucoup de moyens. Vous savez, il y a beaucoup de sports qui, dans un passé plus lointain, ont eu du mal à arriver au sommet. Je pense au golf, au baseball, au cricket, au rugby ou au futsal. Le futsal qui est un cousin du Maracanã. Et donc, il s'apparente également à un loisir. Bon, de telle sorte que il faut vraiment aller chercher des moyens pour que ce sport-là se déploie au niveau mondial. Et à ce titre, on lui souhaite bonne chance parce que quand un projet vient du Sud, le plus souvent, il a des problèmes de financement et des problèmes de pérennité. Mais je crois que c'est un jeu qui est en train de se faire du chemin, enfin en train de se faire une route et à partir de l'Afrique de l'Ouest en particulier, et que d'un moment à l'autre, nous pourrons peut-être avoir plus de partisans.
Voilà, d'un moment à l'autre, on aura beaucoup plus de partisans. C'est malheureusement la fin de ce numéro d'Esporama qui s'achève assez vite par rapport au nombre de sujets évoqués ici ce soir. En tout cas, c'est ici que nous allons refermer cette édition. Merci à nos consultants Élisée Nkpatine, Amine Birouk, le doyen Jules Valentin Ngwe et Amdine Sy. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Michel Joseph. Je suis Yacouba Ouidraogo. On se retrouve la semaine prochaine. Mais en attendant, restez à l'écoute. Jean-Roger Billon, à ton studio pour le journal.